J'aimerais parler sur un regard d'amour. Dans Luc chapitre 7 au verset 36, il est écrit « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Amen. On va arrêter la lecture ici. C'est facile de voir les autres avec le regard du jugement, avec le regard de la condamnation, particulièrement si ce sont des gens qui vivent dans le péché. Ici, il s'agit d'une femme qui vivait dans la prostitution. Elle était donc facile à identifier comme une femme pécheresse. Et on voit que le regard de cet homme, qui est pharisien, qui s'appelle Simon, va être un regard de jugement, de condamnation. Et on ne va pas trop juger non plus ce pharisien parce qu'on a en nous-mêmes un regard de condamnation qui sommeille. On a en nous-mêmes ce désir de se justifier par rapport aux autres. On a en nous-mêmes, en fait, ce péché qui veut, par orgueil, nous rendre plus importants aux yeux de Dieu que les autres. Et donc, on peut commettre les mêmes erreurs. Mais souvent, ce premier regard, c'est-à-dire le regard du pharisien, qui est souvent aussi le nôtre, bien, c'est un premier regard qui est superficiel. Nous ne regardons pas la profondeur, nous ne voyons pas le cœur des gens, nous ne connaissons pas leurs circonstances, nous ne connaissons pas les situations de souffrance par lesquelles ils sont passés pour en arriver là. Alors, quand vous regardez une personne comme cette femme qui est pécheresse, il y a deux possibilités. Soit vous aurez le regard du pharisien, qui est un regard superficiel et un regard de condamnation. C'est facile de condamner cette femme. Tout le monde la connaît comme une prostituée, c'est une femme pécheresse. Ou soit vous allez développer le regard de Jésus, qui est un regard d'amour, qui est un regard de compassion, qui est un regard qui n'est pas accusateur, mais qui va tendre la main et donner une deuxième chance. Jésus aimait les pécheurs, mais il ne faisait jamais de compromis avec le péché. De même, Jésus aimait cette femme, mais il n'approuvait pas sa manière de vivre, sa conduite. Et cette femme va être transformée, changée au contact de Jésus. De pécheresse qu'elle était, elle va devenir une femme de Dieu, une sainte. Elle va appartenir maintenant à Dieu. Donc le premier point, c'est d'abord cette femme de mauvaise vie. Simon, le pharisien, on sait que c'était un pharisien, c'est précisé dans le texte biblique, c'est-à-dire un des religieux juifs qui existent avec les Esséniens, les Sadducéens, tous ces groupements religieux. Mais les pharisiens sont très connus parce qu'ils abordaient souvent Jésus pour le piéger, pour l'éprouver. Et ce pharisien invite Jésus à la maison. Donc c'est une bonne démarche. Et remarquez que Jésus n'est pas sectaire, mais qu'il se rend aussi chez les pharisiens, de même qu'il se rendait aussi chez les publicains, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas une vie très correcte par rapport aux standards bibliques et selon les pharisiens. C'était des collecteurs d'impôts, c'était des gens de mauvaise vie, et on lui reprochait cela. Mais néanmoins, quand ce pharisien, qui est bien vu dans la société, organise un repas, Jésus vient chez lui, et le repas se déroule sans problème, sans anicroche, tout se passe bien, tout le monde est content, tout le monde mange bien, il y a de nombreux plats qui passent. Mais tout d'un coup, alors que ce pharisien discute avec Jésus et est très content de l'avoir à table, il y a cette femme pécheresse qui vient en plein milieu de ce repas et qui va perturber ce qu'avait prévu Simon le pharisien, c'est-à-dire un repas tranquille. Et quand cette femme entre, déjà Simon l'aperçoit mal. Il sent qu'il y a un problème avec cette femme, il la connaît d'ailleurs, elle a une réputation dans la ville, c'est une femme de mauvaise vie, et donc il est réticent à sa venue. Mais elle a réussi à passer les garde-fous et à se retrouver là au milieu des invités. Cette femme voulait à tout prix aller voir Jésus. Et c'est là où on voit chez elle une détermination au-dessus de la moyenne, ce qui va faire que si vous êtes plus déterminé, vous irez plus loin que les autres. Cette femme aurait pu se laisser arrêter tout simplement par les convenances de l'époque. Il n'était pas convenable qu'une femme vienne au milieu d'un repas où des hommes étaient en train de discuter de choses de Dieu. Ce n'était pas dans les us et coutumes. Elle a dû déjà franchir cette considération, mais en plus, vu sa situation de péché, ce n'était pas convenable qu'elle entre chez un pharisien. Donc il y avait plusieurs éléments qu'elle a dû renverser pour pouvoir aller jusque au pied du Seigneur. Donc cette femme a brisé les conventions sociales et non seulement elle est rentrée dans cette maison où il y avait un repas, mais elle est venue avec un grand vase rempli d'un parfum de très grand prix. Et ce vase, elle va le briser au pied du Seigneur et verser des larmes au pied du Seigneur, essuyer ses larmes avec ses cheveux. Pourquoi pleurait-elle ? Eh bien, parce qu'au contact de Jésus, dont elle a entendu le message de la grâce, c'est un message d'amour, c'est un message qui tend la main à tous ceux qui sont dans le péché, qui sont séparés de Dieu, et elle était dans ce cas, eh bien, elle a ressenti chez Jésus la grâce, l'amour, le pardon. Et elle vient pleurer sur ses péchés. Elle vient demander pardon du plus profond de son cœur pour sa situation. Elle ne peut pas se changer elle-même. Elle ne peut pas changer sa vie, elle ne peut pas changer sa situation, elle est là dans son péché. Mais elle sait que Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, c'est celui qui pardonne les péchés. Voyez la différence entre cette femme qui ressent son péché du plus profond de son cœur et qui va pleurer sur son péché, et Simon, le pharisien, qui accueille Jésus, comme ça, sans d'ailleurs lui faire un accueil particulier, comme ça va être mentionné dans la suite du récit, si vous lisez les versets suivants. Il n'a pas versé d'huile sur sa tête, il ne lui a pas lavé les pieds, il ne l'a pas accueilli d'une manière digne. Donc il a accueilli juste Jésus, mais comme ça, sans plus. Et Simon ne se sent pas pécheur. Il ne pleure pas sur ses péchés, il ne réalise pas la profondeur de son péché. Or, cette femme, elle le réalise. Et lorsqu'elle, loin de parfum, les pieds de Jésus, pour Simon, c'est trop. Au verset 39, il est dit, le pharisien, donc c'est Simon, qui avait invité Jésus, voyant cela, se dit en lui-même. Donc, personne n'a entendu ces paroles, c'était des pensées dans son cœur. Il dit dans son cœur, cet homme, en parlant de Jésus, n'est sûrement pas un prophète. En effet, la femme qui le touche est une prostituée et il ne le sait même pas. Voilà le regard de Simon le pharisien. Il a un regard de jugement à la fois sur Jésus et à la fois sur la femme. D'abord sur Jésus parce qu'il n'est pas un prophète. S'il était prophète, au moins il aurait reçu de Dieu que cette femme, c'est une prostituée. Mais Jésus savait qu'elle était prostituée. Sauf que, pour les pharisiens, le fait d'être touché par une personne qui vit dans le péché, donc par une prostituée ici, dans cet exemple, eh bien, ça vous rendait pécheur devant Dieu. Mais pas pour Jésus. Jésus pouvait se laisser même toucher par un malade, et c'était le malade qui était guéri. Il pouvait se laisser toucher par un pécheur, mais c'est le pécheur qui était pardonné, lavé de ses péchés. Mais Simon le pharisien n'est pas rentré dans cette compréhension des choses. Et pour lui, Jésus n'est qu'un homme. Et s'il est touché par une femme pécheresse, alors il devient pécheur, alors il n'est pas prophète. Peut-être qu'il se dit en lui-même, mes collègues pharisiens qui critiquent Jésus ont bien raison de se méfier de lui. Il n'a même pas le discernement. Il n'est même pas assez proche de Dieu pour comprendre que cette femme, c'est une prostituée. Regard de jugement sur Jésus. Mais je dirais, c'est un double jugement parce qu'en même temps, il juge la femme. Il a un regard de mépris sur cette femme. Il relève bien sa vie de prostitution, sa vie de péché. Et c'est toujours plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres que ce qui ne va pas chez nous. Donc, il est là dans la condamnation. Mais c'est facile de juger quelqu'un qui est dans la rue parce que nous, on a eu une éducation avec des parents stables. On a pu fréquenter l'école, on a pu avoir un travail. Et puis d'autres n'ont pas eu cette chance. Ils sont nés dans des familles conflictuelles, Peut-être ils ont été rejetés par leurs parents, certains ont même été abandonnés. Peut-être ils ont été mis à la rue de leur maison, peut-être ils ont été sans travail et obligés de vivre dans la rue et ils ont une souffrance que nous ne comprenons pas. Mais qui va s'intéresser finalement à cette femme? Qui va chercher pourquoi elle se retrouve dans cette situation de détresse? Bien, ce pharisien, en tout cas, ne fait pas cette démarche. Mais si on connaissait un peu mieux la vie des autres, et si on connaissait le contexte, et ce qui les a amenés à vivre ces situations de souffrance, on ne les jugerait pas de la même manière. Donc ce pharisien a un regard superficiel à la fois sur Jésus, pour le condamner, et à la fois sur cette femme, pour dire qu'elle est pécheresse et qu'elle n'a rien à faire ici. Si je regarde maintenant vers Jésus, je vois chez lui un regard profond et un regard de compassion. D'abord, il voit la souffrance de cette femme, il voit sa détresse, il voit son péché, bien sûr, mais il voit aussi sa sincérité dans sa démarche de venir à ses pieds. Ce n'est pas facile de vous agenouiller devant quelqu'un et de pleurer à ses pieds. Et ça, ça exprime une demande sincère de pardon et une volonté de réconciliation avec Dieu. Il voit chez cette femme l'accueil extraordinaire qu'elle lui offre en versant sur ses pieds ce parfum de grand prix. Entre guillemets, c'est une femme qui donne tout pour Jésus. C'est une femme qui donne tout ce qu'elle a, des biens de grand prix. Elle ne compte pas, mais elle donne. Pourquoi ? Parce que son cœur a déjà été touché par la grâce. Il voit aussi ses nombreux péchés, puisque Jésus voit tout. Et on ne peut pas dire que Jésus fait de compromis avec le péché, non. Il voit ses nombreux péchés. C'est une femme pécheresse, comme dit le pharisien. C'est une femme qui vit dans la prostitution. Il voit cette situation de péché. Mais en même temps, il voit aussi la foi de cette femme. Il voit sa consécration. Il voit son amour pour Dieu, ce que le pharisien ne voit pas. Alors, on peut voir les péchés facilement, parce que c'est quelque chose qui était connu dans la ville pour cette femme. C'était connu qu'elle vivait de ce péché de prostitution, mais le pharisien n'a pas vu son désir de transformation. Il n'a pas vu la foi de cette femme qui a été changée au contact de Christ. Et Jésus lui dit dans Luc chapitre 7, verset 47, donc à la fin du récit, « C'est pourquoi je te le dis, » donc Jésus s'adresse à Simon, « ses nombreux péchés ont été pardonnés. » Jésus ne cache pas qu'elle avait de nombreux péchés, qu'elle vivait dans cette situation. Mais ils ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. La foi de cette femme s'est démontrée par son amour extraordinaire. Elle a beaucoup aimé parce qu'elle a cru en Jésus, parce qu'elle a mis sa confiance dans le Seigneur Tout-Puissant. Elle a démontré son amour d'une manière extraordinaire. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu peur de s'approcher de Jésus. Elle n'a pas dit « qu'est-ce que les autres vont penser ?» Parce que si vous aimez Jésus par-dessus tout, ça va se démontrer dans votre vie, par un attachement, par le pardon de vos péchés, mais par une plus grande communion avec Jésus. Il aura la première place dans votre vie. C'est lui que vous suivrez, c'est lui que vous adorerez. Et cette femme était beaucoup plus proche de Jésus que Simon le pharisien. Bien qu'elle venait d'un milieu très éloigné des choses de Dieu, eh bien, elle était finalement en plus grande communion avec Jésus que cet homme qui, lui, était dans la religion des Juifs, qui avait une bonne place dans la société, mais qui était tellement éloigné dans son cœur, tellement loin du Seigneur. Et Jésus lui fait remarquer à la fin de ce récit, « Tu vois, Simon, cette femme-là, elle m'a accueilli comme il se doit, elle a versé du parfum, elle a essuyé ses larmes avec ses cheveux, elle a démontré un amour et un respect que toi, tu ne m'as pas accueilli de cette manière. » Il lui fait remarquer que cette femme, elle a beaucoup aimé, elle a cru davantage, et il y a eu donc un pardon que Simon n'a pas obtenu. Le regard était différent, le regard de Jésus sur cette femme, le regard de Simon sur cette femme. J'en viens à un deuxième exemple, c'est celui de Saul de Tarse. Nous connaissons Saul de Tarse dans la Bible comme un homme violent, un persécuteur de l'Église. La première fois qu'on le voit, d'ailleurs, il garde les vêtements alors qu'on est en train de lapider Étienne, qui est un croyant. Et lui, son objectif, c'est de détruire le christianisme. Donc il va dans les différentes villes autour d'Israël pour arracher les chrétiens dans les maisons, soit les mettre en prison, les faire lapider. Donc c'est un fanatique, c'est quelqu'un qui veut la mort des chrétiens. Et c'est donc dans cette folie de destruction qu'il va à Damas, au nord d'Israël. Il se rend dans cette ville parce qu'il a entendu qu'il y a une communauté chrétienne et il vient pour trouver les chrétiens et les arracher de leur église pour les faire comparaître devant le Sanhédrin. Alors qu'il est animé de cet esprit de vengeance, eh bien, sur la route, il a une sorte de révélation, un éclair qui vient du ciel et qui lui montre que, en fait, il est en train de lutter contre Dieu. Jésus l'interpelle, mais tu luttes contre qui ? Qui ? Il dit, qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et cette voix, il comprend que c'est la voix céleste. Et à ce moment-là, il y a une conversion qui prend place, c'est-à-dire il renonce à sa vie de pharisien, de juif persécuteur des chrétiens. Il accepte Christ comme le Messie, comme son sauveur, et il devient chrétien. C'est une bonne nouvelle parce que c'était un des plus opposés à la parole de Dieu qui devient maintenant un fervent défenseur, et peu de temps après, on le voit prêcher l'Évangile. Alors, on serait tous heureux d'accueillir quelqu'un comme Paul, qui s'est converti, donc il est devenu de Saul, il est passé à Paul, petit, celui qui maintenant sert le Seigneur et qui a tout donné pour Christ, ben, on serait heureux de l'accueillir dans nos églises, bien sûr. Sauf que, à l'époque, eh bien, il traînait sur lui cette réputation de persécuteur de chrétiens. Et lorsque, plus tard, il arrive à l'église de Jérusalem, il était tellement connu pour son hostilité, pour sa méchanceté, pour sa violence envers les chrétiens, que les chrétiens ne l'ont pas accueilli. Ils avaient sur lui un regard de jugement. Ils avaient sur lui, non pas un regard de pardon ou de l'amour de Dieu, mais un regard de condamnation. Acte 9, 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, donc Saul, tâcha de se joindre à eux, c'est-à-dire aux apôtres. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Ça veut dire que les chrétiens, les apôtres, les frères et sœurs de l'église de Jérusalem ont bien entendu parler de sa conversion, mais ils ne croyaient pas que c'était une vraie conversion. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Oui, les disciples étaient méfiants, ils avaient encore la crainte dans leur cœur vis-à-vis de Saul, ils croyaient que c'était un faux frère, et il faut se mettre à la place de Saul, ce jeune converti, il vit un rejet, le rejet des chrétiens de Jérusalem. À la fois les Juifs cherchent à le faire mourir parce que maintenant il est devenu chrétien, et à la fois les chrétiens qui ne l'accueillent pas parce qu'ils ne croient pas qu'il est vraiment converti. Il a un moment dans sa vie où il est tout seul. Et il y a des moments dans la vie où personne ne vous comprend. Mais remarquez ceci, c'est que Dieu ne vous laissera pas tout seul. Dieu n'a pas laissé Saul tout seul à Jérusalem. Il a envoyé une personne qui s'appelle Barnabas. Et Barnabas en français, enfin il avait un surnom plutôt, un surnom qui était fils de l'exhortation. Fils de l'exhortation, c'est lui qui va encourager, c'est lui qui va être l'intermédiaire entre Saul, le rejeté, sur qui on a mis un regard de, on va dire, de persécuteur, et puis les apôtres qui sont là, et il va être l'intermédiaire entre les apôtres et Saul. Il va donc prendre Saul avec lui, il va l'amener en présence des apôtres, il va se faire son défenseur, et Dieu permet toujours qu'il y ait un Barnabas, une personne qui va défendre notre cause, qui va laisser une seconde chance à cet homme qui avait besoin vraiment de la grâce de Dieu. Il y a toujours... Alors, j'aime bien le regard de Barnabas sur Saul, parce que Saul, il a un regard plein d'espérance. Plutôt Barnabas, il a un regard sur Saul plein d'espérance, plein de foi. Il croit que Dieu a prévu des choses pour lui. Vous voyez, c'est ce regard-là qu'il a. Tandis que le regard des apôtres, c'est le scepticisme, c'est l'incrédulité, c'est le doute. Une parole encourageante peut faire beaucoup de bien. Soyons des Barnabas. Proverbe chapitre 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie. C'est cela qu'il communique, Barnabas. Mais la langue perverse brise les âmes. Il y a une puissance dans vos paroles. Il y a une puissance soit d'encouragement, comme Barnabas, soit de découragement, comme les apôtres. Les apôtres se décourageaient les uns les autres. Mais Barnabas est venu s'interposer pour rassembler Saul et les apôtres. Si vous êtes attentif aux besoins, si vous êtes disponible, si vous aidez les autres, à ce moment-là, vous serez un Barnabas. Et le jour venu, les autres vous aideront aussi en retour. Par la suite, quand on lit le livre des Actes des apôtres, Saul a été accepté, son ministère a été reconnu, et il a été envoyé en mission comme... il va devenir l'apôtre Paul, il va fonder des églises. Mais remarquez, si vous lisez le livre des Actes des apôtres, le leader du voyage missionnaire, c'est Barnabas. C'est Barnabas qui prend l'initiative, les directives, c'est lui le chef d'équipe. Et petit à petit, quand on avance, il y a une inversion qui s'opère et c'est Paul qui va devenir le leader et Barnabas le second. C'est une transition qui va se faire. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Barnabas a été assez humble pour reconnaître en Paul un ministère que lui n'avait peut-être pas reçu et qu'il avait besoin de suivre Saul ou Paul, qui est devenu l'apôtre Paul, parce qu'il a compris que Dieu lui a donné quelque chose de plus grand. Et il faut être assez humble, même si on est chrétien, pour être un Barnabas, et de dire, je reconnais dans ce frère ou dans cette sœur que Dieu lui a donné quelque chose, et moi je vais me mettre en retrait, je vais m'humilier, et je vais le suivre, je vais le soutenir, je vais prier pour lui, je vais être à sa disposition pour être un instrument de bénédiction. Et ça a bien fonctionné, c'est-à-dire que Paul n'a pas eu la grosse tête pour dire, maintenant c'est moi qui commande, et ça s'est fait spirituellement, et Barnabas tout simplement, par humilité, a laissé Paul diriger. Et vous verrez que tous les autres voyages missionnaires, c'est Paul qui les dirige. C'est lui qui fonde les équipes. C'est lui qui est appelé par Dieu à ce ministère d'ouvrir des œuvres. Et Paul a parfois souffert du regard de certains chrétiens. Quand on regarde les églises, par exemple, il a fondé des églises comme à Corinthe. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 10. Voilà ce que les chrétiens de Corinthe disaient sur Paul. Car, dit-on, ces lettres, en parlant des lettres de l'apôtre Paul, sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Vous voyez le regard des chrétiens de Corinthe sur l'apôtre Paul. Il est faible, il est méprisable. En fait, ils sont en train de critiquer un serviteur de Dieu. Ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire, et Paul va devoir les reprendre. Et quand on sait que les lettres de l'apôtre Paul font partie de la parole de Dieu, il devrait avoir honte de parler de l'apôtre Paul de cette manière-là. Mais voilà le regard, on va dire charnel. Le regard, et pourtant ce sont des chrétiens, les Corinthiens. Ce ne sont pas des gens du monde, ce ne sont pas des païens. Mais ils parlent à tort et à travers, ils parlent de manière charnelle, humaine, terrestre. Et finalement, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et comparer les paroles des Corinthiens avec celles des Galates. Galates, chapitre 4, verset 13. D'autres chrétiens ont soutenu l'apôtre Paul. Donc, on voit que des chrétiens de Corinthe l'ont critiqué, mais des chrétiens de Galates, il dit, « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez ce que fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile et mis à l'épreuve par ma chair. » Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Voyez l'attitude plus noble des chrétiens de Galates qui reconnaissent en l'apôtre Paul qu'il a été envoyé par Dieu. Il n'exprime envers lui ni mépris, alors qu'il est venu dans un état de faiblesse, peut-être dans un état de souffrance, de maladie. En tout cas, ils ne lui ont pas fait de grief, ils ne lui ont pas fait de reproche, ils n'ont pas exprimé de dégoût, mais ils l'ont accueilli, reçu comme un serviteur de Dieu. Ça, c'est l'autre regard. C'est le regard spirituel. C'est le regard de l'enfant de Dieu qui marche dans l'esprit. C'est le regard des chrétiens de Galate. Alors, c'est pareil aujourd'hui. Quand on est chrétien, on est forcément dans un des deux groupes. Soit on est dans les chrétiens de Corinthe et on est dans la critique, le jugement. Soit on est dans le regard de compassion, le regard d'amour des chrétiens de Galate. Alors, dans quelle catégorie vous situez-vous ? Eh bien, c'est souhaitable que nous soyons tous dans la catégorie des chrétiens de Galate, mais ça dépendra de votre communion avec Dieu. Plus vous avez une grande communion avec Dieu, plus votre regard sera celui du Seigneur. Le regard d'amour, le regard de compassion. Je termine avec un troisième point, c'est Jésus qui enseigne sur la poutre et la paille. Dans Matthieu 7, versets 1 à 5, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu point la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Ben, Jésus parle aussi de ce regard de jugement. Le jugement, quand on voit toujours chez l'autre la paille, on est en train de juger ce qu'il y a dans la vie de l'autre, on voit ses faiblesses, et on a un regard humain, un regard de jugement, de condamnation. On pense que nous, à leur place, on ferait ceci, on ferait cela, on ferait mieux. Les gens vous regardent et peut-être ils vont vous juger un petit peu de ce regard-là, c'est-à-dire le regard du jugement. Ils vont voir la paille chez vous. Ils vont voir superficiellement, ils vont voir vos défauts. Pourquoi ? Parce que le regard est influencé par la culture, par déjà l'égocentrisme, par l'âge, par les difficultés vécues. Et peut-être qu'ils vous verraient d'une autre manière s'ils vous connaissaient mieux, s'ils connaissaient votre vie. C'est pourquoi Jésus a toujours le bon regard, parce qu'il connaît notre vie. Jésus nous demande de voir d'abord la poutre qui est dans notre œil avant de regarder la paille dans l'œil de notre frère. Donc Jésus nous demande de faire un travail sur nous-mêmes, de nous sonder, de regarder au fond de notre cœur déjà nos propres péchés, de venir dans la repentance, demander pardon, d'être changé, transformé avec la grâce de Dieu. Et ensuite, nous pourrons aider les autres à vaincre et à remporter des victoires sur telle ou telle difficulté. Mais si vous ne développez pas ce regard de compassion, si vous n'avez pas fait cette introspection, si vous ne prenez pas le temps d'analyser les poutres qui sont dans votre vie, comment allez-vous pouvoir aider votre frère ou votre sœur ? Vous ne pourrez pas, parce que vous n'aurez pas le regard de compassion, parce que vous n'aurez pas cette communion avec Jésus qui est tellement nécessaire et efficace. En conclusion, on voit bien que Jésus avait un regard différent sur les gens et c'est ce regard-là que nous devons rechercher. Même s'il dénonçait toujours le péché, il était toujours en communion avec Dieu et il voulait sauver les âmes perdues. Et souvent, Jésus, il dit « Je vois les foules, mais comme des brebis qui n'ont pas de berger. » C'est un regard de compassion. C'est un regard d'une personne qui aime les gens et qui veut les sauver. Ce n'est pas le regard du jugement. Le regard d'amour peut changer votre vie. Paul dit même que ce regard est essentiel chez un chrétien. Il dit « Moi, si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Il dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et plus loin, il dit « Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Donc cet amour, ce regard d'amour, ce désir de faire du bien autour de nous, eh bien ça doit faire partie intrinsèque de notre vie chrétienne. Sinon, nous sommes du regard de ce pharisien, de ce regard du jugement, de ce regard superficiel qui condamne, qui voit le péché, mais qui n'apporte aucune issue, aucune aide, ce n'est pas celui de Jésus. Pour changer d'optique, venons aux pieds du Seigneur un petit peu comme cette femme qui avait beaucoup d'amour dans son cœur pour le Seigneur. Elle a été pardonnée de ses péchés. Elle a beaucoup aimé, elle a beaucoup reçu pour donner autour d'elle parce qu'elle avait une attitude de recherche de Dieu. On va prier quelques instants. Que Dieu nous aide à changer de regard, à avoir un regard plus sensible au cœur de Dieu, à avoir un regard de compassion, un regard qui ne s'arrête pas à l'apparence, mais qui voit selon ce que le Seigneur nous met dans le cœur. Merci encore pour ces exemples, pour ta parole, qui nous montre combien, Seigneur, tu veux que dans cette communion avec toi, nous puissions développer ce regard d'amour, ce regard de compassion pour toute personne. Et nous voulons, Seigneur, prendre le temps de méditer, de laisser ta parole rentrer en profondeur dans notre cœur pour opérer les changements nécessaires, afin que tu règnes sur nos cœurs, afin que cette communion avec toi soit établie, afin que nous puissions voir de ton regard, comprendre comme tu veux nous enseigner, et ne pas avoir un regard superficiel, jugé, condamné. Seigneur, enseigne-nous à mieux considérer notre propre cœur, à voir ces poutres qui sont là, pour te laisser davantage de place dans nos vies. Oui, Seigneur, merci pour l'exemple de ce Barnabas. Nous voulons être des fils d'exhortation, des fils et des filles d'exhortation, de ceux qui prennent position pour le bien, pour la vérité, qui aiment ta parole par-dessus tout. Merci aussi pour cette humilité qu'il a eue de laisser Paul diriger alors qu'il était jeune converti, alors qu'il y avait encore, il avait encore certainement beaucoup de choses à apprendre, mais il a discerné en lui un appel de Dieu. Merci Seigneur pour tous ces exemples qui nous montrent que nous ne devons pas raisonner de manière humaine, mais nous laisser conduire par ton esprit. Veuille bénir chaque cœur ce soir et qu'en toute chose ton nom soit glorifié. Amen.